quelle que soit son origine et ses capacités, l'échec est la norme. L'entrepreneuriat, c'est une aventure économique de pays très riches. De quoi parlent-ils quand ils disent que l'entrepreneuriat est dur? À force de trop protéger, on m'a fragilisé. J'ai un nouveau type de hater que j'avais pas avant, donc je connaissais pas. C'est la pure haine déversée. Tous les jours, j'ai des menaces de mort.
Salut Oussama. Je suis très très contente de te recevoir ici sur le podcast À cœur ouvert. T'étais clairement une des personnalités que j'avais le plus hâte de recevoir. Et c'est hyper symbolique pour moi de te recevoir parce que tu fais vraiment partie des gens que j'ai envie de rencontrer, des gens qui gravitent dans l'écosystème que j'ai envie de rencontrer depuis très longtemps. Pour la petite histoire, quand j'ai rencontré mon mec et qu'on essayait de savoir si on avait un bon fit humain, on s'est demandé s'il y avait une personne avec qui t'aimerais partager un dîner, n'importe qui, tu peux choisir, donne-moi quelques noms, une personne morte ou vivante, réelle ou fictive. On avait un top 3 et tous les deux, il y avait Oussama Ammar dedans. Et donc, on a su qu'il y avait un fit humain, tu vois, c'est le genre de truc aussi qui te permet un peu de voir un petit peu où tu te situes. Donc, je suis hyper contente de te recevoir là, je sens qu'on va se régaler. Bon, tu es très connu maintenant dans l'écosystème. On te connaît tous ou presque pour tout ton rôle et toute ton évolution au sein de The Family ou Coup d'État. Mais en fait, ton parcours, il est vachement plus large que ça. Et du coup, plutôt que de te présenter, bon, j'avais envie que tu te présentes toi-même, que tu te laisses en fait te présenter et que tu nous dises un peu qui est Oussama Ammar finalement.
Qui est Oussama Ammar? Ben écoute, je sais pas. C'est marrant que tu dises que mon parcours est plus large, parce que quand même, The Family et Coup d'État, c'est quand même 10 ans de ma vie.
Ouais.
Ce que j'ai fait avant, c'était qu'une préparation à ça. puis j'étais quand même très jeune quand j'ai démarré The Family. Je n'ai que 36 ans. Hein, donc,
ouais, c'est fou d'ailleurs. Autant de trucs en si peu de temps, ouais. C'est fou.
Mais écoute, pour me présenter... que ce soit à la fois pour les gens qui me connaissent et les gens qui ne me connaissent pas. Je pense que ce qui est important, c'est que j'ai toujours été un entrepreneur et ça a été la caractéristique la plus importante de ma vie. C'est que quoi que je fasse depuis que j'ai 12 ans, c'est toujours en prenant des risques et toujours en essayant de créer quelque chose qui me plaît, qui est nouveau, qui est enthousiasmant. Je me suis jamais amusé à créer le modèle classique de quoi que ce soit et c'est un peu la ligne directrice de ma vie jusqu'à présent.
Le modèle classique de quoi que ce soit, c'est intéressant ça.
Oui.
Tu penses à quoi quand tu dis j'ai pas essayé de créer un modèle classique?
Bah, j'ai jamais été attiré par ce qui existe déjà. J'ai toujours été attiré par l'idée de créer quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a deux façons de faire des choses. Soit tu excelles à refaire ce que les autres ont fait, et d'ailleurs c'est génial. Hein. Tu vois, par exemple dans la cuisine, il y a des gens, ils sont très très forts à aller faire des recettes légendaires ou traditionnelles ou etc. Il y a des gens, ils ont envie de créer des nouvelles façons de manger. Et ils ont envie d'explorer des terrains qui n'ont pas été explorés en termes de créativité et en termes de création. Et moi, ouais. c'est plutôt cette branche-là qui m'amuse.
Ouais, effectivement. Ça s'est ressenti sur tes projets. The Family, effectivement, typiquement, c'était quelque chose d'assez inédit dans l'écosystème. Coup d'État aussi. J'étais très fan à l'époque, hein, d'ailleurs. On était sur un modèle d'apprentissage, j'avoue, c'était différent, c'était rien que dans le monde de la formation, c'était très très différent de ce qui existait déjà, ce que vous avez proposé.
Ouais, parce que on a toujours proposé les choses telles qu'on avait envie de les faire et pas telles qu'on aurait dû les faire.
C'est clair. Et du coup, j'avais pris moi à l'époque aussi Anyone Can Scale. J'avais adoré. J'étais pas du tout à une époque où c'était pertinent pour moi. Je m'étais juste dit. Oh allez, le contenu doit être forcément bon. Et c'était effectivement du contenu très bon. Et d'ailleurs, ça m'a conditionné en fait, même si à l'époque c'était pas adapté pour moi, pour ma vision, pour là où j'en étais, ça m'a tellement conditionné sur le plan de la réflexion à essayer d'organiser mon temps, de me structurer, de pas partir dans tous les sens. Qu'en fait, c'est pour le coup, c'est une formation qui, je crois, est toujours en vente en plus. Vous continuez à la vendre, il me semble, Anyone Can Scale. Si c'est le cas, je la recommande à tous ceux qui nous écoutent, en fait, parce que elle m'a vachement aidée, et juste conditionnée, en fait, sur le plan psychologique. Mmh. Parce que la structuration, c'est tellement la base pour pas être surmené, pas se laisser dépasser. Et comme c'est devenu vraiment mon terrain de jeu, optimiser le temps, optimiser tout ce qui va te permettre d'être structuré pour avancer sereinement. Donc forcément, c'était hyper hyper structurant pour moi, quoi, clairement. Tu t'es fait connaître avec une phrase. En fait, t'étais déjà connu, mais on va dire que cette phrase-là était vachement connue. C'était "Anyone can be an entrepreneur." Et à l'époque, ça avait fait un petit peu bordel parce que ça avait été assez mal compris. Est-ce que tu peux revenir un peu rapidement sur cette phrase et à ce qu'elle signifie pour toi aujourd'hui, en tout cas?
Pourquoi tu dis qu'elle avait été assez mal compris?
Parce que les gens avaient compris, le gars, il essaie de nous faire croire que tout le monde peut être entrepreneur, alors qu'en fait, pas du tout, c'est pas donné à tout le monde. Et c'était pour ça que tu avais dit, mais attention, anyone, c'est pas everyone. Mmh.
Effectivement, alors, c'est une phrase que j'ai piquée dans Ratatouille, qui est un film qui m'a marqué. Mmh. Parce que dans Ratatouille, la phrase, c'est anyone can cook. Et Gusto, à la fin du film, dit, j'ai compris ce que le chef voulait dire. Il voulait pas dire que tout le monde peut devenir un grand cuisinier, mais que le prochain grand cuisinier peut venir d'un endroit improbable. D'ailleurs, les gens qui critiquent cette phrase en disant c'est pas fait pour tout le monde, finalement, ils la comprennent, en fait, la phrase aussi. Ils refusent l'essence de la phrase, parce que si c'est anyone, everyone should try.
Ouais.
Parce que tu peux pas savoir d'avance si tu es ce anyone, si tu es, c'est pas. Et je sais pas pourquoi les gens sont tellement choqués et peureux à l'idée que quelqu'un soit pas à sa bonne place. Il me semble pas que qui que ce soit s'inquiète pour les femmes de ménage, tu vois. J'ai quelqu'un dire, oh mon Dieu, on l'a fait devenir femme de ménage alors qu'elle aurait pu être une harpiste hors du commun. Alors, je sais pas pourquoi l'entrepreneuriat a un statut tellement spécial dans la tête des gens. Et je sais pas pourquoi l'idée que quelqu'un te dise, tu sais, tu devrais essayer et que tu essayes et que tu rates, serait forcément une catastrophe de vie, puisque même dans ce processus d'essayer, de rater, on apprend des choses, on se transforme, on n'est plus la même personne. Et donc je vois pas en quoi ce serait un mal pour qui que ce soit. Mais je pense que derrière, il y a une vision assez aristocratique de la supériorité d'un petit groupe de gens qui devraient avoir le monopole de l'entrepreneuriat, et puis les autres, ils devraient même pas essayer parce que c'est d'avance couru qu'ils vont échouer. Alors que ce qu'on dit pas, c'est que c'est d'avance couru qu'on échoue dans ce milieu de l'entrepreneuriat, quelle que soit son origine et ses capacités. L'échec est la norme. C'est un milieu un peu bizarre parce que c'est un milieu où tout le monde écrit sur la réussite alors que tout le monde échoue. C'est très, très dur de réussir une startup statistiquement. D'ailleurs, on devrait toujours être surpris, non pas de l'échec d'une startup, mais de sa réussite. C'est collectivement devrait nous surprendre, mais on n'en est pas capable intellectuellement. Intellectuellement, ouais. On adore expliquer rétrospectivement pourquoi quelqu'un a réussi et ne pas vouloir admettre que quelqu'un ait pu échouer.
C'est vrai. Alors que comme tu... l'échec est la norme, ça c'est une phrase qui résonne beaucoup, tu vois. Et c'est tellement vrai, en fait.
C'est tellement vrai. Si tu prends la Silicon Valley, dans laquelle c'est l'endroit au monde où les startups sont le plus soutenues, aidées, etc., t'es à 90% d'échecs, 95% d'échecs.
Même typiquement, tu reprenais l'exemple du restaurant. Moi, c'est un vieux rêve, tu vois, ouvrir un restaurant. Bon, ce sera probablement mon prochain cycle de vie. Si je passe sur un nouveau cycle, ce sera celui-là. Et j'attends d'avoir beaucoup d'argent parce que justement, j'anticipe l'échec de la restauration, qui est quand même pour le coup une sacrée norme là. Enfin, c'est-à-dire, c'est une sacrée consécration, je trouve, de réussir les projets dans la restauration. C'est pas du tout impossible. Mais pour le coup, on n'en parle pas assez, en fait, de la difficulté du milieu. C'est devenu un peu le grand rêve de tout le monde, quoi. Je vais tout plaquer pour monter mon resto. Comme si c'était facile, tu sais, comme si ça allait t'ouvrir plus d'épanouissement automatiquement que ton poste pépère en salariat. Alors que la vie qui t'attend quand tu ouvres un resto, elle est très très loin d'être reposante.
Ouais. De toute façon, les restos, écrivains, entrepreneurs, musicien, c'est tout ça, c'est des métiers où où le succès il est fragmenté, fragmentaire et pas il est pas consistant. C'est-à-dire que tu peux réussir à un moment et échouer après, tu peux échouer puis finir par réussir. Puis quelle satisfaction tu as et comment tu définis le succès, c'est le grand sujet, parce que quand tu vends ta boîte, est-ce que tu as réussi ou est-ce que tu as échoué? On veut ramener à des concepts d'échec et de succès qui sont mine de rien très 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 durs à définir. Alors que, parce que qu'est-ce que c'est un resto réussi? Si tu sers de la merde aux gens, que tu as de la fréquentation et que tu les empoisonnes, mais que tu gagnes de l'argent, est-ce que tu as réussi?
C'est une question qui m'arrive d'être posée, ouais.
Là, cette question, alors à l'inverse, si tu fais de l'art pas au bon prix, que c'est trop bon, pas cher et que ça finit par fermer, est-ce que tu as échoué? Bah, objectivement, oui. Donc, on arrive à avoir à peu près une définition correcte de l'échec, mais la réussite, c'est plus compliqué.
Ouais. Ouais, ouais, carrément. C'est clair. Et du coup, si tu devais définir ce que c'est qu'entreprendre, parce que c'est pareil, c'est un concept tellement vague.
Oui, il y a une définition, j'en ai parlé sur LinkedIn il n'y a pas longtemps, que j'aime beaucoup. C'est un prof de Harvard qui a cette définition, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est faire beaucoup avec pas grand-chose ou avec rien. Transformer les zéros en un. Quel que soit le domaine, on peut être entreprenant si on a cet état d'esprit. Alors qu'à l'inverse, il y a des gens, tu as l'impression qu'ils peuvent rien faire sans des moyens extraordinaires. Donc, tu as des projets où les gens transforment des gros trucs en petits trucs. Et tu as des projets où tu as des petits trucs qui sont transformés en très gros trucs. Et je pense que c'est ça l'esprit entrepreneur. L'esprit entrepreneur, c'est cette capacité que tu as à faire quelque chose à partir de rien, quoi.
C'est ça. Ouais. Et quelle que soit l'échelle, d'ailleurs. C'est-à-dire partir d'un petit rien pour faire un petit quelque chose, c'est déjà entreprendre, en fait.
Exactement.
Bon, intéressant comme définition. C'est une définition qui me plaît bien. Et pas facile pour tout le monde. Alors, c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que non, effectivement, c'est pas nécessairement fait pour tout le monde. Cela dit, ça reste accessible aux communs des mortels. Dans tous les cas, en fait, moi, ce qu'on a tendance un peu à oublier, effectivement, dans le discours ambiant, c'est que... la période Covid a vachement démocratisé tout ça. Là, les gens qui se lancent à leur compte, on est vraiment arrivé dans une ère collective où entreprendre paraît être l'Eldorado, être à son compte, plus précisément, paraît être l'Eldorado. Et beaucoup de gens en reviennent parce qu'ils ne se sont pas rendus compte, en fait, de tout ce que ça impliquait. Que, en fait, c'est loin d'être aussi cool et facile que ce que ça a l'air d'être sur le papier. Beaucoup aimeraient avoir tous les avantages sans se taper les inconvénients. Or, il y a des inconvénients à l'entrepreneuriat. Et je pense qu'en France, on est un peu moins prévenu de ces inconvénients parce qu'on n'y est pas habitué, tout simplement. On n'est pas un peuple qui a eu l'habitude d'être autant responsabilisé que ça. Se responsabiliser, ça demande un vrai effort d'adaptation quand on n'est pas habitué. Tu as tout le système scolaire, ce qui est même pas forcément fait pour la responsabilisation. Du coup, il y a beaucoup de gens qui tombent de haut. Tu vois, qui se disent, putain, mais en fait, c'est dur. Et ouais, c'est dur. Alors, dur à différentes échelles. Mais tu vois, toi qui as vécu pas mal de choses, différentes expériences entrepreneuriales et tout, qu'est-ce qui te semble le plus dur et que tu as pu observer de vraiment dur dans l'entrepreneuriat?
C'est vraiment une... C'est une question difficile pour moi parce que j'ai une philosophie de vie qui est un peu loin de ce discours. Moi, je trouve que ce qui est dur dans la vie, c'est la maladie et la mort. Que il y a plein de choses qu'en tant qu'humain, on doit vivre. Encore récemment, j'ai été confronté à quelque chose de comme ça, mais quand je vois ce que c'est de faire une start-up, les stress, ils viennent d'où ? Ils viennent de ton ego et de la définition que tu as de tes capacités. Tu te dis, moi, tu vois, tu vas dire, je suis infaillible, et puis en fait, t'es faillible. Tu vas penser que quoi que tu fasses, tu réussisses, puis un jour, on va te dire non. Si tu veux, on est quand même arrivé dans une société où le simple fait de dire non à des gens, ils le prennent comme la fin du monde et ils en font des posts LinkedIn en expliquant que vraiment on leur a dit non et ils ont appris à, ils auraient dû connaître ma mère dans l'enfance, ils auraient compris ce que c'est de se faire dire non, quoi. Donc je trouve qu'en fait l'entrepreneuriat c'est très facile. Les entrepreneurs sont des méga privilégiés. Quand tu prends l'entrepreneur moyen français, il est quand même dans un environnement de rêve. Il est dans un pays assez formidable. Il a accès à des expériences de vie et des ressources qui sont hors du commun. Et il doit être confronté à des stress qui sont ceux de la responsabilité, ceux du revenu, ceux de la performance, qui sont des stress auto-infligés. Si tu perds l'argent, peut-être que les gens sont pas contents, mais à la fin de la journée, ils ont beau ne pas être contents, ça fait partie du jeu. Donc tu peux te rendre malade avec le fait que certaines personnes ne t'aiment pas, mais il n'empêche, tout le monde est adulte, tout le monde sait à quoi il joue, il n'y a pas de sujet. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme stress quand t'es entrepreneur? T'as un client que tu devais avoir, tu l'as pas eu. Résultat, tu as pas les revenus qu'il faut et tu dois fermer la boîte. Bon, ça fait pas plaisir, c'est très désagréable. Mais est-ce que vraiment on peut qualifier ça de difficulté de la vie? C'est-à-dire, quand on compare à un de tes proches tombe malade ou meurt ou un accident ou un suicide ou je sais pas quoi, je trouve que j'arrive pas à comprendre pourquoi on se recalibre pas plus vite dans la vie. Et on vit tous des choses comme ça dramatiques, mais on leur donne pas le même niveau d'importance et la même valeur. Or, quand on comprend son privilège et qu'on est un peu dans ce truc un peu hippie de gratefulness, qui peut paraître ridicule, qui peut paraître vraiment terrible, il y a énormément de gratitude à avoir et à recevoir des choses simples de la vie, y compris de cette forme d'échec qui n'est pas un échec mortel. Je veux dire, perdre un client, perdre du chiffre d'affaires, pas payer les gens, pas atteindre ses résultats, devoir fermer sa boîte, etc. C'est des sujets de... Je connais peu d'entrepreneurs qui sont en précarité réelle. Je connais pas un entrepreneur qui, sous prétexte qu'il a perdu sa boîte, est devenu SDF. Ça n'existe pas, ce genre d'histoire. On parle de gens tellement compétents que au pire, ils vont avoir un emploi. Moi, j'ai vu des gens être dépressifs parce que ils sont à la défense dans une tour, dans un cubicle, et qu'ils se disent ça, je vaux beaucoup plus que ça, pourquoi je suis là? Si tu vaux beaucoup plus que ça, démissionne et va faire autre chose. Mais cette forme de dépression qu'on a tous, elle est mal placée. Et récemment, après avoir fait l'interview avec Thibault Louis, j'ai lu, on m'a envoyé plein de trucs, notamment sur les bains glacés. Et j'ai lu un truc, c'est qu'en fait, quand tu prends des douches froides et des bains glacés, tu recalibres ton rapport au stress. Parce que comme ton corps vit un stresseur réel qui ressemble à la mort, mine de rien, il rééquilibre et réadapte sa propre définition de ce que veut dire être stressé. Et donc, les petits événements de la vie te touchent moins. Et je pense que à force de trop protéger, on a fragilisé. L'entrepreneuriat, c'est une aventure économique de pays très riches. Je veux dire, les États-Unis, l'Europe sont quand même des pays très favorisés. C'est aujourd'hui ouvert à un milieu quand même très privilégié. L'entrepreneur moyen, en termes d'employabilité, en termes de tout ça. Et pourtant, tout le monde se comporte comme s'il était ouvrier textile dans les Vosges. Et il y a une sorte de porno à la souffrance qui, moi, me met un peu mal à l'aise parce que j'ai du mal à trop comprendre de quoi les gens parlent. Je veux dire, de quoi parlent-ils quand ils disent que l'entrepreneuriat est dur? C'est blessant pour l'ego de pas y arriver. Je veux dire, tu lances un produit, le produit il est pas acheté, il marche pas, ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie. C'est frustrant. C'est rageant. Mais c'est une force positive que ce soit frustrant et rageant. Tant mieux. Parce que c'est ce qui fait qu'on change, qu'on itère, qu'on va chercher ailleurs. Et ça, c'est du bon stress. C'est de la bonne force. Il faut pas en avoir peur. Et au contraire, faut aller la chercher. faut arrêter de se... On a quand même beaucoup d'entrepreneurs rupture conventionnelle en France. Les mecs qui sont entrepreneurs pendant 18 mois payés au chômage, puis ils paniquent 30 jours avant la fin de leur chômage, et après ils retournent dans leur boîte et ils expliquent à tout le monde comment ils étaient entrepreneurs. C'est vraiment casse-pied. Parce que c'est des gens qui vivent pas vraiment, en fait. Et le fait de pas vivre vraiment, ça fait qu'on a l'impression que les petits soucis de la vie sont des soucis d'une très grande taille. Alors qu'en fait, si on était dans une vie intense et qu'on en faisait beaucoup et qu'on recommençait, on se rendrait bien compte que c'est pas si grave.
Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je me rends compte qu'il y a à la fois aussi, il y a des questions de vocabulaire. C'est-à-dire, quand tu dis c'est rageant, c'est frustrant, rageant, frustrant pour certaines personnes égale dur. Tu vois?
Je comprends, mais...
Donc, ça peut être ça, tu vois.
Mais justement, est-ce que c'est légitime de laisser le vocabulaire conquérir ses zones? Je peux te raconter une histoire de vocabulaire.
Bien sûr.
Il y a quelques années, j'ai été invité à l'école de guerre, qui est l'école qui forme les généraux français, à faire une présentation. Et la présentation s'appelait « Apprenez à prendre des risques ». Et c'est le jour où les militaires d'un commando sont morts en allant chercher des otages au Burkina Faso ou je sais pas où. Et donc, l'école est en deuil, l'ambiance est lourde, c'est quand même une news pas terrible. Ça fait là, pour le coup, ça fait vraiment mal. Il y a quand même des gens... Imagine qu'ils donnent leur vie dans le cadre d'opérations militaires pour sauver des otages français, des simples civils. Ces gens-là, quand ils rentrent à la maison et qu'ils disent qu'ils sont stressés, j'ai envie de leur faire un massage. Tu vois. Je pense que leur stress est réel. Tu vois. Et moi, je regarde le titre de la conf et je me sens mal. Je me sens terriblement mal. Je me décompose de l'intérieur. Je me dis, mais c'est pas possible, cette connerie. Je suis en face de mecs qui risquent leur vie tous les jours. Et il y a un type qui a fait la conférence, apprenez à prendre des risques. Moi, tu vois. Ouais. Et j'ai commencé la conférence en présentant des excuses. En disant que le langage était quand même très limitant.
Ouais.
Et qu'on avait le même mot pour décrire risque, à savoir risquer sa vie dans le cadre d'une opération militaire, et risque, moi, qui prends de l'argent et qui ne sait pas s'il va en gagner demain, plus ou moins, et qui jongle avec des produits et des landing pages et des A/B tests. Et le langage décrit ces deux phénomènes avec le même mot. Et je me suis dit, peut-être que si les entrepreneurs arrêtaient de dire qu'ils prennent du risque, mais qu'ils prenaient du bim badaboum, bah, tout le monde serait détendu. Tu vois, ils disaient, alors, t'as pris beaucoup de bim badaboum cette semaine? Ouais, ça va, écoute. Je boum plus que je boum, tu vois. Et je trouve qu'il est bien le mot bim badaboum.
Ouais, j'aime bien, ouais.
Et effectivement, le langage est pas neutre. Le langage structure notre façon d'appréhender les choses. Il structure notre réel. Il structure notre façon de percevoir et de voir les choses. Et donc, il faut faire très, très attention à comment on accepte ou pas et à quelle réalité on donne aux mots dans notre univers.
Tout à fait. Même chose pour la douleur. Hein. En fait, il y a une échelle, si tu veux, le risque ou la douleur fonctionne par échelle. Tu peux avoir mal en te coupant ta petite peau là au bout du doigt. On dit « Ah, j'ai mal !» Et à côté de ça, t'as le mec qui vient de se prendre une balle dans le genou qui a mal, vraiment mal. Et c'est pour ça qu'elle est intéressante, cette échelle de douleur, tu sais, qui te demande à l'hôpital quand tu arrives. C'est une question qu'il pose sur l'échelle de la douleur, 2 à 10, vous êtes où. C'est pareil pour l'échelle du risque. Mais c'est vrai qu'on perd de vue qu'il y a cette échelle, en fait, et qu'il y a des gens qui risquent quelques centaines d'euros, d'autres quelques milliers d'euros, d'autres quelques millions, et d'autres qui risquent leur vie, voire plusieurs vies même. Donc on est clairement sur quand même des échelles assez monstrueuses en termes de risques et de difficultés de vie, c'est clair. Et pour autant, même le plus petit qui prend des petits risques, il a un risque ressenti plus fort. Peut-être que d'autres personnes qui prennent plus de risques. Parce que c'est son échelle et c'est son ressenti, et c'est son expérience.
Ouais, exactement.
Et donc toi aussi, forcément, mais c'est pareil pour les difficultés de vie. Quelqu'un qui a été beaucoup confronté à la mort déjà n'a pas la même... qui a beaucoup été confronté à la mort ou à la maladie ou à la pauvreté ou... on n'aura forcément pas le même rapport à la difficulté de vie que quelqu'un qui n'a pas été confronté à ça. Ça, c'est obligé, vraiment.
Mmh. Ouais, c'est ça.
Et tu le vois, hein, que... Alors, quand tu dis on a trop protégé les gens, du coup, on les fragilise, je sais pas si c'est ça. Très honnêtement, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de ça, mais je pense qu'il y a surtout... Enfin, c'est le parcours de vie qui fait que chacun est plus ou moins résistant.
On a quand même des sociétés occidentales méga, méga protégé, quoi. La France, le niveau d'attente qu'on a de l'État et de sa mission, et à quel point l'État doit résoudre tous les problèmes en France,
ça, pour
c'est
le coup,
quand même méga étouffant, quoi. C'est à se demander de quoi les gens sont responsables, en fait.
Mmh. Oui, ça, pour le coup, ouais, c'est clairement un problème de déresponsabilisation, mmh, au bout d'un moment, ça, c'est sûr. Quand tu attends que l'État ou autre chose, d'ailleurs, le Saint-Esprit, t'es... Je l'ai vu, moi, sur LinkedIn, depuis que je suis autant présente que ça sur LinkedIn, les gens se plaignent d'avoir des haters et ils disent que LinkedIn n'est pas bon en modération. Et tu vois, alors moi, des haters, j'en ai pas mal, hein. Et si tu veux, je dis, mais qu'est-ce que LinkedIn en a à foutre? Enfin, c'est pas le problème de LinkedIn d'aller... Mais t'imagines le boulot, s'il faut aller modérer tous les commentaires de gens qui vont t'insulter un peu. Enfin, en fait, c'est à toi de te blinder, quoi. Mais effectivement, je pense que j'ai la même vision que toi par rapport à la responsabilisation de chacun sur les difficultés de la vie, les événements de vie, sur juste tout ce qui peut t'arriver. Mais il y a personne qui viendra te sauver, quoi. Ça c'est sûr. Personne qui viendra te sauver.
Ouais. Et t'as dans tes haters, t'as des haters publics et t'as des haters privés aussi.
Alors privés beaucoup moins. Moi c'est plutôt d'ailleurs quand j'en ai marre, surtout je bloque les gens, hein, parce qu'en fait c'est insupportable. J'ai décidé de ne pas me prendre la tête avec une situation polluante plus de quelques minutes. Si je vois que quelqu'un commence à me polluer, next. Enfin, c'est j'ai pas de temps et d'énergie à perdre avec ces trucs.
Sur LinkedIn, là, j'ai une policy, c'est que 100% des gens qui disent un truc qui me déplaît, je les bloque. Même, je me suis dit comme ça va dépolluer mon LinkedIn. Je trouve, ils disent un truc con sur un commentaire de quelqu'un d'autre, je les bloque. Parce qu'en fait, je me dis, mais c'est pas possible, ces réseaux sociaux où tout le monde a le droit d'ouvrir la bouche. Donc, il faut bien que quelqu'un fasse ce travail de modération pour lui-même, quoi.
Ah mais c'est ça, c'était obligé, c'est pas quelqu'un d'autre de faire ce boulot là et clairement les réseaux sociaux te confrontent à la diversité humaine. C'est-à-dire moi j'ai découvert beaucoup de choses depuis que je suis sur les réseaux, hein. Je débarque, j'y suis depuis que 2 ans et LinkedIn très à fond depuis 1 an et j'ai vu des trucs, j'étais là putain, ah il y a des gens qui pensent ça ou qui s'expriment comme ça et de là, ah mais ils sont beaucoup en fait. Donc oui, il faut bloquer un peu et faire du ménage, que ce soit sur les posts, sur les commentaires, sur des... Il y en a, je les vois trop et à chaque fois que je les vois apparaître, je me dis ah c'est pas possible. Ouais, au bout d'un moment, si ça te pollue, faut bloquer. C'est clair. Et même quand c'est des gens qui te parlent pas directement, tu vois que leur flux d'idées te revient tout le temps à la tronche, si ça te pollue, c'est pas possible, il faut couper.
Ouais.
Ça devient vraiment une pollution mentale en fait, les réseaux, si on se blinde pas. Je parlais de ça avec une copine il y a pas longtemps d'ailleurs. Je disais, depuis que je suis sur les réseaux, que je passe du temps et que je me balade sur le feed en tant qu'utilisatrice, j'ai un peu l'impression que tous les jours on me chie un petit peu dans le cerveau. Mais vraiment. Et du coup, il y a des fois, faut enlever un peu de merde, hein. Et puis faut faire en sorte de couper le robinet. Parce que juste c'est pas possible, en fait.
Ouais.
Mais vrai sujet là-dessus. Effectivement. Vrai sujet. Sur la responsabilisation du flow que tu reçois. Bah, j'imagine que toi, tu dois recevoir pas mal en plus, parce que t'es quand même une personnalité qui jusqu'ici a pas mal clivé, on va dire.
Puis moi, j'ai des nouveaux haters. C'est vrai que j'ai passé récemment le seuil du mainstream. Et depuis que j'ai passé le seuil du mainstream, j'ai un nouveau type de hater que j'avais pas avant, donc je connaissais pas. C'est la pure haine déversée. Donc avant, j'avais jamais eu de vrais messages racistes ou tu vois. Par exemple, maintenant, tous les jours, j'ai des menaces de mort.
Ah oui.
Ça, c'est un nouveau level. Ou des gens qui souhaitent ma mort. Ou des gens, tu vois. juste avant de commencer l'émission là, il y en a un, ça m'a frappé parce qu'il a un, il a un, je l'ai vu passer, tu vois, en commentaire. Et donc, c'est carrément, tu vois, le mec dit un truc du genre, t'es tellement gros que tu vas mourir d'une crise cardiaque, t'en fais pas. Et j'y connecte et je vois sa photo et je le trouve mignon sur sa photo. Et je vais voir la photo, puis c'est un gamin, tu vois, qui a 18 ans, il a un joli profil, tu vois, il est plutôt esthétique. Et je lui ai écrit, écoute, j'ai fait un screenshot pour ta maman, je pense qu'elle va apprécier. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est que ce type là qui roule des mécaniques sur Instagram, à ma blague, parce qu'évidemment, j'avais pas screenshoté, envoyé à sa mère, il était en panique, s'est excusé, m'a dit pardon monsieur, je savais pas que vous lisiez les commentaires.
Ah ouais. Tu vois, c'est que.
Ouais. En fait, tu vois, ça te fait un peu relativiser cette haine aussi, en fait, c'est que. Je sais pas, il y a un plaisir d'exprimer sa jalousie et d'éballer sa haine sur les réseaux, tu vois. Il doit y avoir un vrai plaisir à ça, en fait.
C'est un pur défouloir. En fait, on est devenu juste des purs consommables sur les réseaux sociaux. Donc les gens se disent pas, ah, il y a un gars qui va lire le commentaire, qui va l'intégrer intellectuellement et qui va penser à ça. Enfin, en tout cas, pas les personnes qui commentent comme ça. Ouais. Mais vraiment, c'est ça. Il pose sa pêche sous ton post ou sur ton profil, dans tes messages, et il passe à autre chose. Mais pour lui, t'es une poussière dans son univers. C'est juste inconsommable. Mmh. Et il y a une dépersonnalisation, en fait, de l'humain sur les réseaux sociaux qui est en train d'atteindre, un stade assez inquiétant, je trouve, pour le coup. Parce que c'est comme si on était dans un jeu vidéo géant. Là, on est sur un truc, mais vraiment, c'est une évolution sociétale, je trouve, qui devient un peu flippante, pour le coup. Et du coup, à partir du moment où les gens nous dépersonnalisent, faut réussir à se dépersonnaliser nous-mêmes de la version de nous qui est sur les réseaux. C'est ça qui devient vraiment pas du tout, du tout évident, en fait.
Intéressant. Intéressant, ouais. Bon, ouais. Après, ouais, je pense que il y a aussi une hygiène de vie à simplement l'ignorer et jamais aller le lire.
Ah oui.
Mais c'est juste trop tentant, des fois.
C'est hyper tentant. Enfin, on est des humains, hein, quand même. Hein. Donc, être complètement coupé de ça, je trouve ça hyper dur. Et surtout, si vraiment le but, c'est de travailler une communauté, c'est compliqué de se couper de tout, tu vois. Le but est aussi d'être un peu en lien, de répondre aux commentaires. Ouais. Et tu peux pas choisir qui vient commenter et qui vient pas commenter. Hein. Ça, c'est... Ouais. C'est la loterie. Ouais. En tout cas, moi, je suis contente de te voir de plus en plus sur LinkedIn. J'ai hâte de voir un peu différents contenus que tu vas nous pondre.
On va voir si je vais tenir un an.
C'est long, hein.
C'est long, un an. Hein. Mais là, déjà, au bout de 10 jours, les commentaires m'hallucinent. Mais pas les commentaires de haters. Les haters, c'est autre chose. Mais les commentaires de gens, Dieu, protège-moi de mes ennemis, mes amis me font déjà assez de tort, tu vois. C'est-à-dire que tu découvres les gens qui t'aiment bien et tu te dis, oh là là, c'est pas terrible non plus, en fait.
Par rapport à quoi? Je veux un exemple, ça.
Le niveau intellectuel des commentaires sur LinkedIn, il est assez catastrophique, quand même. Hein.
Bah, dis-toi, alors, je suis d'accord, moi, je ressens ça de plus en plus, mais dis-toi que c'est quand même pourtant un des réseaux où le niveau est le plus élevé. Donc, je sais pas ce qui est le plus inquiétant dans cette histoire. Mais moi, il y a pas longtemps, j'ai installé TikTok. Je me suis dit, tiens, je vais aller regarder. Je tombe sur un truc vachement cool. C'était un couple polyamoureux qui expliquait un peu leur fonctionnement et tout. Je me dis, tiens, je vais aller voir les commentaires. Oh la vache! Ah, le niveau de jugement, le niveau de, c'est flippant,
si
quoi.
Tu rentres sur,
niveau intellectuel.
Si tu rentres sur le sujet polyamoureux, alors là.
En plus,
tu peux plus, là. C'est le monde te détruit, quoi.
Ah ouais. Puis des gens hyper sur deux, quoi. Tu sais, ils ont 15-16 ans, ils ont une définition de l'amour qui est figée dans le marbre, puis ils t'apprennent la vie et t'es là. Ah, oh, ils sont sur deux, les gens, quoi. Dingue. J'adore. Tu sais rien de la vie, tu parles pas encore dans un français correct par écrit, mais par contre, tu donnes des leçons de vie aux gens, quoi.
Ouais.
Sans problème. Et LinkedIn, alors, c'est vrai que moi, je suis encore aussi impressionnée parce que je partais du principe que tout le monde allait être intelligent sur LinkedIn. Pas du tout. Pas du tout non plus. Mais ça reste plutôt acceptable par rapport au reste de la moyenne. Quoi.
Bah, ce qui est gênant, c'est que toutes les interactions de qualité, elles sont en message privé.
Ouais, la plupart.
Et c'est fou comme à chaque fois qu'il y a un mec qui dit un truc smart, il le dit en privé et ça m'énerve. Parce que tu dis, mais pourquoi? Pourquoi tu dis pas en public? Et en fait, je comprends, c'est qu'ils ont pas envie de se prendre la tête avec des gens qui viennent leur prendre la tête.
Bah ouais. C'est ça.
Et c'est vrai que les commentaires, c'est un peu, en fait, le fait que tu puisses te donner de la visibilité en dessous de la visibilité de quelqu'un. Par exemple, j'ai pas ce problème sur Insta. Sur Insta, mes interactions sont d'assez grande qualité. Parce que les gens qui te parlent en privé, ils essaient pas de se faire voir. Alors que là, t'as quand même, tu donnes une audience à des gens, tu vois, qui veulent juste venir en commentaire, se donner un peu de gratification. Mais bon.
Ouais, j'adore. Ou, moi, j'ai des gens qui viennent faire leur pub, sous mes posts. Oui, des concurrents qui viennent faire leur pub sous mes posts. Mais alors, magique! Ça, je bloque direct aussi. J'ai plus de patience.
Tous les jours, quoi. Ça.
Incroyable. Ouais, non, incroyable. Mais donc oui, attends, moi quand j'ai entendu oulala, Oussama se lance dans 365 jours, je me suis dit, autant à un moment il va se rendre compte que c'est pas la création de contenu le plus dur, hein, c'est le fait d'être un peu esclave de l'interaction et tu sais, c'est tout le temps ramené à ce truc quoi.
Ah mais moi de toute façon, tu veux que je te montre comment j'ai fait? Alors là, je l'ai réglé, mais tout de suite le problème. Donc, en fait, il faut que commentaire plus écriture du post plus tout ça me prenne 15 minutes par jour.
Oh la vache. Alors là, donc, je suis impressionné.
Voilà.
Dingue.
Et je le fais sur mobile. Comme
ah
ça,
ouais.
C'est réglé.
Ah putain.
Je passe 15 minutes par jour dans la maison des fous, là. Et
ouais.
Après, c'est fini, quoi.
Je suis impressionné. 15 minutes par jour, on peut dire, je pense que c'est carrément, carrément bien maîtrisé, là, pour le coup.
Ouais, mais sinon, attends, c'est des coups à devenir cinglomatique, quoi.
On est d'accord. Je pense que l'addiction aux réseaux sociaux, c'est un des trucs qui va faire le plus de mal à la planète dans les décennies qui vont venir, parce qu'on est en train de, s'auto-détruire de plus d'une manière.
Moi, je sors d'une addiction TikTok très honteuse.
Ouais.
J'étais en roue libre là. J'ai perdu 3 mois de ma vie, je pense, sur TikTok.
Ah, putain.
J'étais à 4 à 5 heures de TikTok par jour.
Ah ouais.
Et je n'arrivais pas à m'arrêter. Et l'app limite m'a sauvé. Parce que j'ai la chance de ne pas, mes addictions, j'ai une vraie volonté à ne pas démarrer les choses. Mais j'ai pas de volonté à les arrêter. Donc, si l'app me dit, ça fait 15 minutes que c'est TikTok, ce machin, j'appuie pas sur snooze. J'y arrive, ça, y a pas de problème. Mais j'avais pas conscience de passer 4 à 5 heures par jour. Et quand j'ai eu le truc, là, d'app limite 4-5 heures par jour, ça m'a fait super peur. Je me suis dit, sur quelle planète je suis, là?
C'est flippant, TikTok.
Et j'arrivais pas à en sortir. J'avais l'impression d'avoir le cerveau lobotomisé.
C'est exactement ça. Tu sais que TikTok, ça a été co-créé par des addictologues, hein, donc ils savent exactement ce qu'ils ont créé, hein, comme produit. Donc, ils savent exactement ce qu'ils ont fait. Hein. C'est extrêmement puissant et c'est le diable en boîte, ce truc.
Ouais.
Mais ouais, donc les réseaux, clairement. Faites attention si vous nous écoutez à vous protéger aussi vous-même. C'est très compliqué. Je fais partie des gens aussi qui sont en face de cette complexité. Moi, j'ai besoin des réseaux pour ma boîte parce que c'est mon modèle de croissance pour l'instant. Le jour où j'en serai complètement sortie, je serai très contente. Très honnêtement, je pense qu'on peut tous aisément s'en passer. Et mieux on arrive à s'en passer, franchement, mieux c'est.
En fait, s'en passer, c'est pas le truc. C'est de réussir à avoir la mesure parce que. À l'inverse, moi, sans YouTube, sans LinkedIn, sans Insta, je suis personne. Je continue 10 ans plus tard à rencontrer les gens les plus intéressants de ma vie sur ces réseaux. C'est incroyable, ça. Je veux dire, moi, les gens qui ont vu mes contenus YouTube et qui sont devenus des amis, la dernière fois, on avait un dîner, il y avait 10 personnes. À chaque fois, il y avait une personne qui disait, lui, tu l'as rencontré comment? Je l'ai rencontré sur YouTube. Et lui, tu l'as rencontré comment? Il regarde ma vidéo sur YouTube. Et lui, tu l'as rencontré comment? Et en fait, c'est d'une puissance incroyable. J'ai pas du tout envie d'arrêter de faire du contenu. Mais c'est comme tout, il faut de la mesure. 30 minutes de TikTok par jour, c'est, je pense, bon esprit. 5 heures de TikTok par jour, c'est de la maladie. Le truc, c'est que c'est comme la cigarette. À la différence de la cigarette, vaut mieux ne pas fumer. Alors qu'être 100% en dehors des réseaux sociaux, je trouve que tu perds quelque chose.
Ouais, totalement. Tu vois, c'est marrant, YouTube, je le considère même pas comme un réseau social perso. En fait, dans ma tête, pour moi, c'est devenu un grand moteur de recherche avec possibilité de commenter, quoi. Mais
D'accord.
j'irais pas le considérer. Alors que oui, en soi, c'est un réseau social, hein. Mais tu vois, dans les commentaires YouTube, il y en a pas beaucoup. C'est un engagement qui est très très faible par rapport à la plupart des autres réseaux.
Ouais.
Et c'est pas du snack content non plus. Tu vois, LinkedIn, par exemple, on est vraiment dans le stack content. Tu postes un cours, tu postes un post, pardon, donc tu publies ça, c'est très très court. Mon cerveau a bugué. Les gens consomment ça. Ceux qui te connaissent pas vont te juger sur une idée et soit être à fond pour toi ou être à fond contre toi. Et ceux qui te connaissent vont aller un peu plus loin, savoir que c'est juste une des pièces du puzzle que tu es en train de construire, tu vois, avoir cette vision d'ensemble. Mais la plupart des gens sont très basiques, en fait, sur les réseaux sociaux, hein, parce qu'on est tous très basiques, hein, d'une manière générale.
Ouais, je suis d'accord.
Par contre, je suis entièrement d'accord aussi sur le fait que tu fais des rencontres de malades et que le gain, enfin, il y a clairement un gain de dingue, mais c'est vrai que... Trouver, enfin, placer le curseur correctement pour limiter son temps sur les plateformes, c'est hyper important, ça c'est clair.
Ouais, clairement. Ouais.
Totalement. Alors, je sais que du coup, t'es parti de The Family depuis un petit moment maintenant. Ça fait combien de temps que t'es parti déjà? Deux ans?
Juillet 2020.
Juillet 2020, ok. Ouais, bah c'est ça, 2 ans. Ouais, on est déjà
Un
plus
an
loin que...
officiellement,
Ok.
mais ouais.
Bon, comme tu l'as dit, c'était un gros chapitre de ta vie, de ta carrière, ça c'est clair. Ce que tu fais en ce moment n'a absolument rien à voir avec ce que tu faisais auparavant.
Exactement, ouais.
Et moi, vu que j'ai un petit peu bossé dans le domaine de la crypto, ou qu'en tout cas, c'est un petit domaine auquel je continue de m'intéresser de loin, ça m'intéressait bah, de savoir où tu en étais dans cette étape-là, enfin, juste d'en savoir plus en fait de ton projet actuel de HFO.
Ouais. Bah écoute, mon projet il est très 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 simple. Tous les jours, il y a des gens qui échangent des crypto-monnaies sur des sites à des prix plus ou moins différents. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des arbitrages de prix à faire en étant capable de découvrir des différences de prix entre ces plateformes? Et tu as des différences de prix de niveau 1. Et t'as des différences de prix de niveau 2 quand tu joues avec les devises et avec des zones du monde où c'est pas forcément très facile de sortir l'argent et de changer l'argent parce que nous on vit dans des zones où le change il est gratuit mais il y a des zones où le change est pas gratuit. Et donc il y a pas mal de stratégies comme ça à monter. Alors c'est une boîte très différente parce que c'est une boîte d'ingénieurs. Sur 15 personnes, on est 3 non-ingénieurs et 12 ingénieurs. C'est une boîte que je construis de façon remote et asynchrone, dans laquelle on essaye de documenter toutes les décisions et d'avoir un fonctionnement plus que, comment dire, réfléchi. On prend pas, on n'a pas Slack, on n'a pas de groupe WhatsApp. On fait pas de réunion, on fait tout dans des issues GitHub et on se pose des questions sur tout ce qu'on fait. On se pose la question est-ce que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire et surtout on le documente pour pouvoir retracer l'histoire de pourquoi une décision a été prise puisqu'on joue quand
D'accord.
même avec notre propre argent et on le fait quotidiennement. Donc t'as besoin d'être très très fiable. Donc on est en train de créer une culture de la fiabilité et les organisations qui ont une culture de la fiabilité ça demande une lenteur que t'as pas dans d'autres, mais il faut quand même avancer rapidement. Et après, grosso modo, nous, notre but, c'est d'avoir une plateforme sur laquelle on peut exécuter tous les trades très rapidement. Et donc, on bâtit notre propre infra de data, on bâtit notre propre infra de pricing, d'exécution, de gestion d'ordre. On ouvre des sociétés un peu partout dans le monde pour pouvoir se balader avec l'argent et les devises. Donc c'est un métier qui est assez sympa pour moi à apprendre parce que il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'investisseurs. Et avec un peu de chance, je ferai assez d'argent pour investir dans mes propres projets. Ma vision, mon endgame là-dedans, c'est de me dire, est-ce que je peux créer une machine qui me rapporte suffisamment d'argent pour ne dépendre de rien et personne et d'avoir la liberté de financer les excentricités que j'ai envie de financer.
Ok. Et vachement intéressant en termes d'orga, parce que ça, typiquement, là, c'est le nouvel type de structure vers lequel on va de plus en plus tendre.
Ouais.
Pas Slack, ni WhatsApp, ni le... Enfin, tu vois, je réfléchis dans ton organisation asynchrone.
Ouais.
Hyper nouveau, je trouve, pour le coup, dans la maintenance organisée, juste un GitHub. Tout est sur le GitHub, ouais, alors, en fait, dans vos échanges.
On a un... Enfin, on n'utilise pas vraiment GitHub, mais j'utilise le mot GitHub, mais on utilise une app qui s'appelle Linear, qui est en fait comme les GitHub issues. Et on utilise Confluence et la suite Jira pour le gérer le code, mais c'est comme si on avait un GitHub et que tout était une discussion autour du code. Parce qu'en fait, 100% des discussions et 100% de ce qu'on fait mène à écrire du code. Et donc, puisque t'as pas, encore une fois, t'as pas d'actionnaires, t'as pas d'investisseurs.
Ouais, t'as que des choix techniques à faire.
Des choix techniques
fait,
qui se balade avec de l'argent. Et même les sujets légaux, on les traite d'un point de vue produit. Par exemple, on va pas, un des grands sujets dans ce métier-là, c'est d'être capable d'opérer dans plusieurs pays à la fois, dans plusieurs devises. Ça pose des contraintes de pays. Ben, on est en train de modéliser toutes ces contraintes juridiques comme un data model. Donc, on exprime les contraintes juridiques dans un code qui nous permet de parler à la machine et de parler à des humains de la même interface. Donc, le juriste de la boîte est en train de se former à parler en code. Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas que le juriste nous dise à tel endroit la règle, c'est ça. Ce qui nous intéresse, c'est que le juriste puisse dire en langage machine à tel endroit la règle, c'est ça. Parce que la vision de long terme, c'est qu'un jour, toutes ces décisions de trade, elles seront plus prises par des humains, mais par des machines. Et donc, on est en train de préparer brique par brique toutes ces décisions.
Ok. Sacré boulot. Ouais. Et ça avance au rythme qui est prévu. Il y a des challenges particuliers.
L'asynchrone, c'est très, très challengeant parce que les gens ne savent pas expliquer à l'écrit leur raisonnement. Et ça, c'est le plus challengeant. Mon plus gros problème aujourd'hui, c'est de vraiment faire comprendre à 100% de l'équipe l'intérêt d'être 100% asynchrone. Passent leur temps à vouloir m'appeler, me demander des réunions, machin. Et moi, j'ai fait un truc radical. Je leur parle pas. Si j'en chope en train de se parler, ça m'énerve. Vous allez dire que c'est pas documenté. et donc, il faut être un peu extrême. C'est pas facile. Mais en dehors de ça, j'avoue que je suis impressionné par les résultats de cette organisation parce que, à l'inverse, l'infra qu'on est en train de déployer, le rythme auquel on avance, et la profondeur des décisions qu'on est en train de faire, c'est du jamais vu par rapport aux organisations que j'ai créées dans le passé. Et je pense que j'ai un défaut, c'est que je parle vite et j'ai l'impression que tout le monde comprend ce que je dis. Et en fait, là, je me rends compte que personne panne rien quand je parle. Parce qu'en fait, ça devient obvious. Parce que quand tu vois les gens justifier leurs décisions, tu vois tout de suite ce qu'ils n'ont pas compris. Parce que si t'es pas crystal clear dans ta tête sur ce que tu es en train de faire, ce que tu écris est tout de suite... Tu peux pas te cacher, en fait. Alors que quand t'es dans une réunion et quelqu'un te dit t'as compris et que tu dis oui, bah moi je te fais confiance, je me dis oui, il a compris. Alors que si je te dis à la fin de la réunion, ok, vas-y, documente tout ça dans une issue pour en faire quelque chose, et d'ailleurs même pas dans une réunion mais dans un email ou quelque chose, bah d'un seul coup, si t'as pas compris 100% du contexte, t'y arrives pas,
ça se voit direct
en fait. Dans une boîte qui trade de l'argent, c'est quand même extraordinaire.
Carrément. Hyper intéressant comme nouveau modèle de regard. Là, je t'avoue que mon cœur saigne un peu sur le zéro échange asynchrone. Et en même temps, je me dis, si ça fonctionne, c'est qu'il y a quelque chose à faire d'efficace. T'es tout seul sur la coordination ou t'as un chef de projet ?
Non, j'ai un CTO très solide.
D'accord, ok.
J'ai un CTO très, très solide. Et là, jusqu'à présent, c'est moi qui faisais toutes les stratégies de trade. Et maintenant on a deux traders qui nous rejoignent très solides. Donc l'équipe, après c'est une équipe de gens extrêmement intelligents, très haut niveau. Tu vois, il y a pas de place. Par exemple, c'est le type d'organisation dans lequel un junior ne pourrait jamais prospérer ou progresser.
Ouais. Parce que, bon, ça va trop vite.
Bah non, mais surtout t'es face à ta page blanche tous les jours et t'as la personne avec qui parler, quoi. Et on parle tous de gens qui, à côté, ont une vie sociale, des interactions. Tu vois, moi, la façon dont je m'organise mes journées grâce à ça, c'est que j'ai des matinées kiff, j'ai entre midi et 14 heures Better Call Saul, et ensuite j'ai des après-midi de deep work. Et ça, c'est quand même un... Et j'ai des dîners et j'ai une vie sociale le soir. Si ma sociabilité passait par mon travail, ce serait le pire endroit sur Terre. Je peux pas... Enfin, nous, soit les gens sont quand même un peu seniors, ils ont une famille, des enfants, et donc ils sont trop heureux d'être en asynchrone. Tu vois, moi, j'ai un mec là dans mon équipe, il bosse de 20h à 2h du mat tous les jours. Non pas que... Enfin, je le vois parce que je vois les heures à quelles il poste ses issues. Et je trouve ça trop marrant parce que je m'en fous, en fait. Dans ce type d'organisation, tu t'en fous de quand est-ce que les gens bossent.
Ouais, totalement.
Tu n'es intéressé que par le résultat qu'ils produisent. Et donc, ça donne des modes d'organisation un peu différents. Lui, il a une famille, il a des enfants, il en est proche, il a envie de, tu vois, passer du temps avec eux. Ça a complètement changé sa vie de pouvoir être dans ce genre d'organisation.
Bah écoute, Oussama, moi j'ai été hyper contente de te recevoir. Je pense qu'il y a énormément à faire effectivement sur ce business-là, qui a une structure, je trouve, vachement intéressante. J'ai hâte de voir la suite de tes aventures parce que je doute que ce cycle de vie-là, il va se terminer à un moment et puis il y en aura un autre et puis un autre.
J'ai toujours vécu ma vie en cycle.
Ah mais on a tous des cycles de vie, non?
Ce cycle-là, je pense que ça va être un cycle court. The Family a été un cycle très long pour moi. 10 ans dans un projet, pour moi, c'est... J'aurais jamais énorme. Imaginé tenir aussi longtemps. Là, je pense que dans un monde idéal, le cycle du labyrinthe, c'est un cycle de 2-3 ans max qui me donne une liberté financière telle que je peux réouvrir un cycle long de créativité. Donc, c'est vraiment...
Je suis un peu comme ça, pareil, cycle de 2-3 ans où on oscille entre du taf et de la créativité. Et je suis pas mal en ce moment d'ailleurs, je réussis à faire un peu des deux, ça c'est plutôt cool. Bon, bah écoute, hâte de te revoir pour d'autres occasions. En tout cas, je te remercie pour cet échange qui était super, qui correspond exactement à ce que j'attendais.
Merci,
à bientôt, Samir.